France Inter. .fr.
Bonjour, c'est la romancière Frédérique de Gelt qui est l'invitée de Vous avez dit classique cet après-midi. Journaliste et réalisatrice à la télévision au départ, elle consacre aujourd'hui sa vie à l'écriture avec toujours en toile de fond de la musique, soit en bande musicale qui accompagne les mots et le propos, soit comme dans son dernier roman émouvant aux larmes, Libertango, sorti chez Actes Sud, une histoire de musique et en musique. Libertango, c'est le roman d'un homme, Louis, enfant handicapé de la partie gauche de son corps, qui rencontre la musique à travers un poste de radio. Ça tombe bien. La musique l'apaise, le nourrit, lui parle, le remplit, l'aide tout simplement à vivre, jusqu'au jour où il croise Astor Piazzolla dans une rue parisienne. Une rencontre qui est celle de sa vie, un début de chemin vers la liberté et surtout vers sa grande carrière internationale de chef d'orchestre. Nous sommes donc avec Frédérique de Gelt pour parler de son rapport à la musique en regard avec la vie de Louis Nilta Bergo, dont le portrait est délivré subtilement au fil de la plume de Frédérique de Gelt dans son roman Libertango, en précisant quand même que Louis Nilta Bergo est un personnage fictif. Bonjour, bonjour. Frédérique de Gelt. C'est vrai qu'il paraît très réel votre personnage, comme un chef d'orchestre qu'on aurait aimé rencontrer. C'est un roman plein de musique dans tous les sens. Il y a de la sensibilité, un vocabulaire très bien choisi pour évoquer ce que certaines partitions peuvent provoquer. La musique semble être votre vie, en plus de l'écriture.
C'est un peu ça, oui. En tout cas, c'est tout le temps là. Ça a toujours été là dans ma vie et ça n'a pas cessé avec l'écriture. Je dirais même que ça s'interconnecte. J'écris pas en musique, mais en fait, quand j'écris, le moment même où je trace avec un stylo, je dirais, j'imprime. Du coup, là, je suis dans le silence. Mais tout le reste autour, et c'est ça la bande-son que je mets dans les livres, est en musique.
Ça veut dire que vous pouvez écrire les mots comme on écrit une partition, enfin, si vous savez écrire une partition, mais en tout cas, poser des mots qui sonnent comme si c'était une musique, c'est possible?
J'essaye de le vérifier, en tout cas à la fin du livre, en le faisant lire par un comédien pour voir si ça sonne, justement. Enfin, en tout cas, tout ce qui n'est pas fluide, je le corrige, je le supprime. Voilà, c'est la dernière relecture.
Alors on va commencer avec le titre éponyme de votre roman, Libertango. C'est un titre d'Astor Piazzolla qu'il a composé en 1974 en rassemblant le mot liberté et tango. On imagine à quel point ça évoque un souffle de liberté. Alors là, ça va être interprété par deux compères qui ont sans doute, sans aucun doute même, la même complicité que celle qu'avait Astor Piazzolla avec Lalo Schifrin, ou encore Astor Piazzolla avec Louis, votre personnage de roman. Il s'agit donc de Richard Galliano avec Michel Portal, l'un qui a l'accordéon, l'autre au bandoneon, et ça marche merveilleusement bien. J'espère que ça vous plaît pour commencer. Thank you. Liber Tango d'Astor Piazzolla avec Richard Galliano à l'accordéon et Michel Portal au bandoneon. Deux bonnes personnes pour donner ce souffle à cette musique qui mélange mélancolie avec hargne de vivre, en tout cas, qui correspond bien au souffle de votre livre, Frédéric de Gelt, puisque c'est d'une sensualité complètement folle par rapport à la musique et aussi dans une rage de plus que de survivre, de vivre. C'était votre désir, dans ce choix de titre, Liber Tango, de faire entendre cette soif de liberté?
J'ai presque pas choisi le titre. Louis est arrivé, comme arrive chaque personnage, mais avec beaucoup plus de force encore. Et ce personnage est arrivé à un moment où j'étais en train de visionner un chef d'orchestre qui dirigeait Liber Tango. Et il m'a dit, j'ai 80 ans, je suis chef d'orchestre, je suis handicapé. On dit du tango que le tango est une pensée triste qui se danse, le handicap aussi. Et à partir de là, j'ai vu toutes ces choses qui se ressemblaient dans deux choses qui n'ont rien à voir. Le handicap et le tango, a priori, mais on fait pas un pas sans être mu par une émotion. Et on est tout le temps dans la relation à l'autre.
Vous avez même appris à danser le tango pour écrire ce roman, vous m'avez dit?
Oui, parce que l'écriture, c'est le corps, c'est pas la pensée. C'est tout comme la méditation, quelque chose qui ne doit pas passer par la pensée. Et je me disais qu'il devait s'écrire sur le rythme du tango, alors qu'il fallait que je le perçoive de l'intérieur, en fait.
Alors, il faut dire que vous avez vécu une enfance entourée de musique, apparemment, Frédéric de Gelt, avec un père qui venait carrément jouer de la guitare au pied de votre lit pour vous endormir, vraiment?
Oui, tous les soirs, il venait avec sa guitare et il jouait des choses très difficiles, parce qu'en plus, il lisait pas du tout la musique.
Il jouait que d'oreilles.
Et il jouait que d'oreilles, et donc il y avait un ami qui lui apprenait des valses vénézuéliennes, des trucs très compliqués qu'il retenait d'un bout à l'autre.
Alors on va en écouter un des morceaux qu'il jouait, c'est ça, La Cathédrale, c'est un morceau qu'il a joué, un morceau de Agustín Barrios, qui est un morceau que Barrios a composé en 1921 après avoir visité la cathédrale de San José de Montevideo en Uruguay. Et c'est une musique, c'est étonnant parce que dans la deuxième partie qu'on va écouter, elle a quelque chose à la fois de Bach, parce que voilà, la cathédrale a dû lui faire penser à Bach et à la musique de Bach, à l'orgue. Mais il y a quelque chose de très Piazzolla. Vous vous en êtes rendu compte, vous, quand vous avez fait le choix musical, Frédéric de Gelt?
Non, parce que c'était ce morceau-là qui me faisait beaucoup rire, parce qu'il l'a beaucoup exécuté à tous les sens du terme, et beaucoup injurié aussi, parce qu'il était difficile.
Très difficile à jouer,
voilà,
ouais.
Exactement. Mais c'est sud-américain aussi, c'est le côté... Oui, il y a quand même le côté sud-américain.
Donc on va continuer de danser.
Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de sud-américain. Et donc aussi, ouvrez bien vos oreilles, chers auditeurs, parce que dans les premières notes, on pourrait presque croire que c'est le début de Liber Tango.
Thank you.
La cathédrale interprétée par le prince de la guitare, John Williams, à la guitare. Et la cathédrale, c'est d'Agustín Barrios. Et vous revoyez votre père jouer en écoutant Frédéric de Gelt. Oui, je vous voyais concentré quand même, l'oreille tendue vers les enceintes.
Oui, c'est plus du sentiment que le fait de le voir vraiment, de voir les mains. C'est pas la vision, c'est vraiment le sentiment que j'éprouvais en l'écoutant jouer.
Et c'était quoi comme sentiment, enfant ?
C'était un sentiment confortable. Il me semblait que j'étais dans une bulle et que rien ne pouvait arriver, je pense, c'est ça.
Comme un petit cocon.
Voilà.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Frédéric de Gelt, on va écouter Chopin maintenant. Et j'aime beaucoup cette anecdote par rapport à Chopin. Vous dites que, en fait, vous avez beaucoup pensé, réfléchi, rêvé de lui parce que vous partagiez le même prénom et qu'au fond, vous avez pensé que George Sand ne l'a pas aimé correctement. C'est vrai, vous avez beaucoup pensé à Chopin quand vous étiez jeune.
Oui, et ce qui m'étonne aujourd'hui avec le recul, c'est de me dire que j'avais quand même 6 ans, 7 ans, et je me disais que moi, c'était, si ça avait été mon fiancé, j'aurais pas été comme elle, j'aurais su l'aimer. Enfin, c'est des sentiments qui me paraissent
décalés.
Mais comment
vous avez eu connaissance de cette histoire d'amour? Et puis, voilà, parce que vous aviez un vinyle, mais c'était raconté sur la pochette du vinyle, cette
Alors,
histoire?
Non, j'avais le vinyle et j'avais un autre disque qui était Chopin raconté aux enfants. Mmh. Et là-dedans, il y avait, alors la première, il n'avait pas de peau, ce pauvre garçon, parce que la première comtesse ne voulait pas de lui, alors c'était mon malheur. Alors, bon, évidemment, tout ça donnait lieu à des musiques magnifiques. Mais j'en voulais, je ne sais pas pourquoi, particulièrement à George Sand.
Et donc, vous avez rêvé, aimé mieux dans votre vie. Du coup, on va écouter ce nocturne numéro 2, opus 27, en ré bémol majeur de Chopin, qu'il a composé alors qu'il était en résidence à Paris, mais il ne connaissait pas encore George Sand. Et l'interprétation, c'est Dino Lipati, parce que c'était le disque que vous aviez, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bon, ben on l'écoute tout de suite. Il faut faire attention à la main gauche qui se mêle à la main droite. Et finalement, c'est presque mieux, plus intéressant d'écouter cette mélodie qui se glisse entre les notes à la main gauche. Un extrait du Nocturne numéro 2, opus 27, en ré bémol majeur de Chopin, interprété par Dino Lupiati. Lento sostenuto, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intense dans ce morceau, Frédéric de Gelt, où on peut presque dissocier deux modes de pensée selon qu'on écoute la main gauche ou la main droite, et qui nous emmène vers ce chemin qui semble être le vôtre, où vous exprimez en tout cas dans votre roman Libertango, et puis on sent bien que ce personnage est proche de votre perception de la musique, où la musique serait une forme de liberté ultime pour vous.
Elle n'est pas mesurable, elle est complètement... on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas... on ne s'en sert pas pour parler aussi. La grande difficulté qu'on a avec la langue dans laquelle on écrit, c'est qu'on s'en sert aussi pour dire « passe-moi le sel ». Donc elle appartient à tout le monde. Mmh. Et du coup, la musique appartient à tout le monde parce qu'on l'écoute et que tout d'un coup, on est dans quelque chose qui est se laisser porter. Mais tout le monde ne peut pas la pratiquer. Donc il n'y a pas cette espèce d'ensemble entre la parole, l'écriture, la musique. Il y a les musiciens qui font de la musique et les autres l'écoutent. Il y a vraiment une rupture.
Et pourtant, vous avez expérimenté votre père qui, lui, n'était pas musicien et il était de fait, puisqu'il avait décidé avec sa guitare, de s'emparer de ce langage qu'on ne lui avait pas appris.
Oui, mais là, pour le coup, c'était un musicien. C'est-à-dire que je pense qu'un vrai musicien, d'ailleurs un musicien qui compose, ça a été découvert par les gens qui utilisent les cerveaux. Ils n'ont pas la même... Le centre de la musique n'est pas au même endroit. Pour un compositeur, c'est pas du tout les mêmes zones du cerveau qui s'activent, même sur l'écoute et sur l'entente d'un musicien.
Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu... étant enceinte de votre premier enfant, je crois, lui faire entendre les Liebeslieder de Kreisler, ce violon qui raconte tout simplement une mélodie très simple à entendre. Et il y avait de votre part, j'imagine, un désir de former l'oreille de votre enfant.
En fait, je faisais des tas de tests quand j'étais enceinte, surtout pour la première fois. Après, bien sûr aussi, parce que j'avais été fascinée par la première fois. Je sais exactement, pour tous mes bébés, à quel moment j'ai senti qu'ils entendaient la musique à travers la paroi du ventre. Alors, il y avait beaucoup, évidemment, les sons très graves, ça c'est évident. C'est plutôt lui qui a remué et manifesté sur ce morceau de violon. Et du coup, je me suis dit, c'est sûr qu'il entend, là. Donc, je me disais, c'est un enfant romantique, forcément.
On va écouter ce Liebeslied de Kreisler, interprété par Joshua Bell. Alors, ce qui est intéressant avec Kreisler, c'est que c'était un enfant prodige, finalement un peu comme Louis, qui jouait naturellement bien du violon. Il interrompt sa carrière pour devenir médecin, et puis finalement, la musique le rattrape, en quelque sorte, comme s'il n'avait pas d'autre chemin à suivre que celui-là.
Oui, il a une vie assez, assez étonnante et très longue.
Très longue, effectivement. Et sa carrière reprend aussi en 33 quand il décide de quitter l'Europe pour aller poursuivre sa vie aux États-Unis parce que, en tant que musicien juif, forcément, il sent bien que son avenir paraît un peu compromis.
Thank you.
Liebe Slide de Fritz Kreisler, interprété par Joshua Bell au violon et Paul Cocker au piano, un album de 1996 et qui nous emmène tout droit sur le terrain de cette sensibilité extrême de Louis, qui est donc le personnage principal de Libertango de Frédéric de Gelt.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Frédéric de Gelt, Louis est un personnage éminemment sensible. Sensible, en plus, il souffre d'un handicap, donc tout le monde le regarde. Personne ne l'aime. C'est vrai que ses parents, son père en particulier, vraiment n'est pas heureux d'avoir mis au monde un fils pareil. C'est quelqu'un qui souffre donc d'une double sensibilité, puisqu'il est d'abord naturellement sensible, mais en plus, souffrant de ce handicap, il est sensible du regard des autres sur lui. C'est un personnage qui pourtant... s'en sort grâce à cette sensibilité. Comment vous est venue cette idée de personnage, à part en pensant au tango?
En fait, c'est lui qui vient, c'est lui qui me raconte qui il est. Alors, j'ai été un peu aidée, là, parce qu'il se raconte à une journaliste qui veut
Léa, qui veut faire
un documentaire sur lui, et puis un livre. Et puis, il y a ce qu'il veut lui dire, ce qu'il ne veut pas lui dire. Évidemment, il essaye, comme il a 80 ans, quand il se raconte, il est plus doué sur la façon de dissimuler tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a dévasté.
Et à la fois de dire aussi, c'est vrai.
Voilà. Mais cette sensibilité, elle est à la fois, je dirais, une sorte de chose qu'on porte quand on a un handicap, il me semble. Donc je ne suis pas chef d'orchestre et je n'ai pas de handicap, donc j'étais illégitime surtout, ce qui ne simplifiait pas l'écriture parfois. En même temps, j'ai un enfant qui a un handicap et je vois bien que cette extrême sensibilité, elle est à la fois dans son rapport au monde, dans le lien qu'il crée avec les autres et ça n'échappe pas, évidemment, à celui qui est en face. Alors peut-être que la différence, elle fait peur aussi, parce que l'authenticité du lien que crée quelqu'un qui a un handicap nous effraie dans un monde où on n'est pas habitué à ça. On est habitué à être dans une sorte de truc social où tout est bien codifié, tout est bien... ça passe pas par l'authenticité, la vérité.
Alors Louis va devenir chef d'orchestre par des hasards fous et des rencontres phénoménales. Vous avez beaucoup écouté, je crois, Tchelibidak en préparant l'écriture de ce livre, c'est ça, en amont? Vous avez tout écouté d'ailleurs, je crois, toutes ces directions d'orchestre.
J'ai écouté tout ce qui était à ma disposition, en regardant aussi, parce que la gestique, j'aime pas tellement le mot d'ailleurs, je lui préfère gestuelle, mais c'est le mot, la gestique.
C'est plus technique.
C'est plus technique et c'est plus... Je sais pas, il y a quelque chose de mathématique. En tout cas, la danse des bras... Voilà, me fascinait aussi, et la différence qu'il peut y avoir entre un jeune chef, quand on le voit jeune et quand on le voit plus vieux, il y a une sorte de décontraction qui a pris la place, qui s'installe, et qui est très belle à regarder, mais à la fois j'ai goûté aussi parce qu'il faut fermer les yeux et on voit pas les mêmes choses avec les yeux fermés.
C'est ce que raconte très bien Louise d'ailleurs, hein, cette façon d'entendre au-delà de tout même, c'est une écoute d'ensemble. Alors Tchelibidac lui était très obsédé par le tempo, je crois justement il trouvait que le tempo en tant que tel n'était pas quelque chose de valable, la vitesse juste rationnel n'avait pas de sens et qu'au contraire c'était un mélange d'ensemble de choses qui faisait que le tempo apparaissait presque de lui-même, c'est ça ?
On n'avait pas le choix, voilà. Et en fait, c'est assez intéressant parce que moi, je ne connaissais pas bien ce qu'elle disait, mais ça me semblait logique à un moment de pas juger en disant ce type va trop vite ou va trop lentement, mais d'écouter tout simplement ce qui se passe et de dire qu'est-ce que ça me fait.
Alors on va l'écouter, dirigeant le Requiem de Mozart dans le passage Dies Irae. C'est donc Sergiu Tchelibidac qui dirige, chef argentin célèbre du XXe siècle. Le voici avec l'Orchestre Philharmonique de Munich. Requiem en ré mineur, la séquence Dies Irae de Mozart, bien sûr, par l'Orchestre Philharmonique de Munich, sous la direction de Sergiu Tchelibidac. Bien sûr, grand chef roumain, mais on était tellement en Argentine, Frédéric de Gueldt, que je me suis laissé prendre par votre roman en Libertango, qui effectivement mélange cette hispanité et bien sûr la rencontre que va faire Luis avec deux personnages déterminants dans sa vie, Lalo Schifrin et Astor Piazzolla. Est-ce que dans ce roman, vous avez eu envie de laisser transparaître un peu votre ressenti à vous qui avez baigné dans la musique par rapport à la musique, parce qu'à la fois on sent que c'est très c'est plein d'analyses, que vous avez probablement beaucoup lu, que vous avez même probablement lu des traités scientifiques sur le rapport de la musique sur le cerveau, mais on sent bien que vous, votre sensibilité s'exprime par rapport à certains compositeurs.
Je sais pas si c'est ma sensibilité. Parce que le personnage est tellement prenant et envahissant qu'il m'a emmené sur des chemins où je connaissais même pas les interprètes ou même les musiques que je découvrais. C'est-à-dire que je me laissais complètement porter par ce qui arrivait. Et j'étais fascinée parce que, par exemple, à ma grande honte, je ne connaissais absolument pas El Sistema au Venezuela, ni Antonio Abreu, ni cette découverte que fait Luis, je la fais en même temps que lui, en fait. Et du coup, je me disais, mais c'est extraordinaire, donner des instruments à des enfants des favelas et puis qu'ils deviennent des grands musiciens, c'est complètement incroyable. Voilà, c'est... c'est la découverte.
Alors le jazz aussi, vous l'avez découvert en même temps que lui, Bud Powell et les clubs de jazz à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50?
Ah non, ça non, par contre. J'étais pas dans les années 50 à Saint-Germain, mais c'est mes parents qui y étaient. Et donc, bon, ils étaient déjà proches de gens qui étaient dans le jazz. Et notamment, mon père et ma mère étaient très amis avec Francis Podras, qui s'est occupé de Bud Powell, qui a écrit La danse des infidèles, dont on a tiré autour de minuit, Tavernier a fait ce film magnifique. Donc là, ça c'est quelque chose qui était autour de moi, le jazz.
Ça devrait vous plaire. Alors on va passer à I Remember April, un standard composé par Pat Johnson, interprété ici par Charlie Parker au saxophone. Et c'est le pianiste Bud Powell qui l'accompagne, accompagné de Max Roach à la batterie, Curry Russell à la contrebasse. Bref, on est dans le jazz pile de ces années-là. Ça grince un petit peu et c'est ça qui est bon. On reconnaîtra tout de suite Bird, célèbre saxophoniste de jazz. Thank you. Remember April, Charlie Parker au saxophone alto, Bud Powell au piano, Fats Navarro qui n'est pas là, Curly Russell à la contrebasse et Art Blakey à la batterie. Un enregistrement de 1950 et on est vraiment dans un club de jazz hein, là vraiment au Frédéric de Gelt. Et Louis, le personnage principal de Libertango là, qui est sorti chez Actes Sud, il y a quelque chose qui se passe au moment où il écoute le jazz, qui se passe vraiment de l'ordre de la liberté. Il a l'impression d'être complètement en osmose avec ses musiciens et pourtant, il ne fera jamais de jazz.
Non, mais c'est cette manie de mettre dans des cases. Il n'y a pas cette division dans le cerveau d'un musicien et dans son amour de la musique. En tout cas, dans certains, ça existe, mais j'ai l'impression que c'est plus le respect d'une éducation qu'un penchant naturel. Il me semble que si on ne mettait pas des cases partout comme ça et une façon de séparer la musique elle est multiple, elle est interculturelle, elle devrait être partout dans la rue. Il devrait pas y avoir la musique, la belle et grande musique à la grande salle de la Philharmonie que par ailleurs j'adore, où je suis beaucoup allée pendant que j'écrivais ce bouquin. Mais on pourrait avoir des orchestres symphoniques dans la rue, comme les big bands à la Nouvelle-Orléans, quoi.
Est-ce qu'il nous conduit tout droit vers ce chef d'orchestre célèbre, Gustavo Dudamel, qu'on va écouter diriger la Danson numéro 2 d'Arturo Márquez, puisque lui, c'est vraiment, on est vraiment dans ce que vous décrivez là, c'est-à-dire la musique classique en accès à tous, ce qui a été le cas de Louis, puisqu'il écoutait la radio la première fois qu'il a entendu de la musique dans sa famille, on n'écoutait pas de musique, puis en plus ça a enragé sa sœur qui se sent si proche de la musique, mais c'est en écoutant la radio qu'il s'est mis à vivre et à vibrer. Ce chef d'orchestre Gustavo Dudamel avec son orchestre El Sistema, c'est pour vous une sorte d'idéal de rapport à la musique, pouvoir donner accès à tous à la musique, que chacun puisse jouer.
Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça détruit l'idée que apprendre la musique classique c'est réservé à une partie de la population. N'importe qui à qui on met un instrument dans les mains dès la petite enfance et qui y passe des heures par jour et qui s'habitue à jouer en orchestre peut devenir un musicien d'orchestre. Alors évidemment, il y en a qui vont pas devenir musicien, mais c'est très important de cette ouverture-là.
Donc l'idée de l'orchestre et le Sistema, c'est de mettre un instrument entre les mains d'enfants issus de bidonvilles et puis leur proposer, leur offrir cette capacité et cette chance de pouvoir jouer tout simplement. Alors après, on joue bien, on joue mieux, tant mieux, mais ce qui compte, c'est de faire de la musique. l'orchestre symphonique Simon Bolivar sous la direction de Gustavo Dudamel. C'est Tonique, la danson numéro 2 d'Arturo Márquez, extrait de l'album El Sistema 40, A Celebration.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors Frédéric Degel, puisque vous nous emmenez dans la vie et dans la tête d'un chef d'orchestre dans votre roman En Libertango sorti chez Actes Sud, je voulais vous annoncer la nomination, hein, on est ravis à la nomination donc à l'Orchestre National de France de Emmanuel Krivine qui va devenir le directeur musical de cet orchestre. Un grand chef d'orchestre arrive donc à la tête de notre bel orchestre qui est l'Orchestre National de France. Il prendra ses fonctions je crois en septembre prochain, le 1er septembre, et puis on va le recevoir le 22 juin dans l'émission. J'imagine que vous aurez plaisir à l'écouter parce que je pense que c'est quelqu'un qui a plein de choses à raconter sur la musique aussi.
C'est sûr.
Alors sinon, je crois que vous devez beaucoup à Hubert Nissen avec qui vous partagez une passion pour les Goyescas de Granados. Hubert Nissen, le fondateur des éditions Actes Sud, avec qui vous avez beaucoup échangé au cours de votre vie et qui vous a incité à écrire et à plus écrire encore, je crois.
C'est-à-dire que surtout, il m'a donné la chance d'être publié, ouais. Puisque il a reçu les 30 premières pages de La vie d'une autre, qui était dans un tiroir. Voilà, qui était dans un tiroir depuis 4 ans. Et sur ces 30 premières pages, il m'a dit, si la suite ressemble à ce que je viens de lire, je vous publie. Dans ma collection, un endroit où aller, ce qui était vraiment ce que je cherchais, un endroit où aller.
Depuis, vous êtes toujours publié chez Actes Sud, très belle maison d'édition. Alors, puisque vous aimez beaucoup Jean-François Esser, je voulais vous dire, et les Goyescas de Granados, je voulais vous dire qu'elles seront jouées cet été dans le cadre des rencontres musicales du pays d'Auge, qui auront lieu du 2 juillet au 4 août entre Lisieux, Honfleur, Cabourg, Bernay, et d'autres très jolies villes normandes. Jean-François Esser jouera le 9 juillet à 19h dans le grenier à sel d'Honfleur. Allez-y, hein. Il sera avec Michel Butor qui racontera Goya entre chaque pièce musicale. On n'a pas trouvé malheureusement ces Goyescas de Granados dans la discothèque magnifique de Radio France, mais je vous propose quand même une des 12 danses espagnoles de Granados, puisque Jean-François Esser est l'un des spécialistes de Granados. Voici la plage Andalusia. Andaluza des douces danses espagnoles d'Enrique Granados, interprétée par Jean-François Esser, pour vous inviter à aller au festival en pays d'Auge et donc à Honfleur le 9 juillet à 19h dans le grenier à ciel d'Honfleur. Vous irez, vous ?
Je vais regarder. Je ne sais plus où je suis le 9 juillet.
Bon, si vous êtes en Normandie, je vous invite vraiment à y aller. En tout cas, je voulais vous remercier d'être venu partager cette heure avec nous, partager cette heure autour de Luis et ce roman Libertango sorti chez Actes Sud. Très beau roman et véritable roman puisque c'est un personnage totalement fictif. Merci à vous.
Et merci puis, beaucoup.
Merci à Marie-Annick Rimbaud, Camille Poux-Jalaguier, Claire Destacan et Alexandra Ramos da Silva. À la technique, c'était Tristan Gratalon. Demain, nous recevrons l'éditeur jeune, très jeune éditeur, Adrien Bosque.